Chapitre 46. La photographie. Yona et Saga doutent de pouvoir obtenir des informations décisives de la part d'Edith Schwartz. En revanche, il se peut qu'elle sache où se trouve la photographie. Saga quitte l'autoroute et ralentit. Elle bifurque sur la route 77, passe sous le viaduc de l'autoroute en direction de Gniewca, puis rejoint une petite route gravillonnée qui longe l'autoroute. Une petite forêt de sapins borde quelques parcelles de terre en jachère. Le mur d'un abri à fumier s'est affaissé et le toit de tôle est désormais de travers. « On est censé être arrivé », dit Saga en consultant le GPS. Ils poursuivent à faible allure jusqu'à une barrière rouillée et s'arrêtent. En quittant la voiture, Yona constate que l'on entend toujours le grondement ondoyant de la circulation sur l'autoroute. À 20 mètres, ils aperçoivent une petite maison en briques jaunâtres dont les volets et la toiture en éternite sont recouverts de mousse. En s'approchant de la maison, ils entendent un étrange cliquetis. Saga lance un regard en direction de Yona. Soudain alerté, ils se dirigent lentement vers la porte d'entrée. Ils entendent un bruissement derrière la maison, puis de nouveau le cliquetis métallique. Cette fois, le bruit s'intensifie et tout à coup, un grand chien se jette sur eux. Dressé sur deux pattes, la gueule ouverte, il est retenu à 1 mètre seulement de Saga. Puis, il est tiré en arrière et repose automatiquement ses pattes antérieures sur le sol avant de se mettre à aboyer. C'est un grand berger allemand au pelage sale. L'animal semble très agressif. Il aboie encore et encore en secouant parfois sa tête et en courant sur le côté. C'est seulement maintenant qu'il voit que le chien est attaché à un long trolley coulissant. Lorsqu'il court, la laisse glisse sur le câble tendu en provoquant un cliquetis. Le chien se retourne et fonce sur Yona. Le câble l'arrête et il est tiré en arrière. Il aboie frénétiquement mais s'arrête net lorsqu'une voix retentit à l'intérieur de la maison.
« Nils !»
crie une femme. Le chien gémit puis tourne en rond, la queue entre les pattes. Ils entendent le plancher grincer et après quelques secondes la porte s'ouvre. Le chien se précipite derrière la maison, suivi par le chointement du câble. Edith apparaît sur le perron, vêtue d'une vieille robe de chambre mauve. Elle les regarde.
« Nous avons besoin de vous parler, » dit Yona. « J'ai déjà dit tout ce que je savais. Pouvons-nous entrer ?»« Non !»
Yona jette un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Dans l'obscurité, il distingue des casseroles et des assiettes, un tuyau d'aspirateur gris, des vêtements, des chaussures et des cages à appâts pour écrevisses entassées dans l'entrée.
« On peut aussi bien rester ici ?»
dit Saga d'un ton aimable. Yona consulte un instant son calepin et commence par vérifier si Edith Schwartz se souvient des détails qu'elle a livrés pendant l'interrogatoire. C'est une méthode de routine pour révéler des mensonges ou d'éventuels arrangements avec la vérité, car il est souvent difficile de se rappeler de détails inventés au cours de l'interrogatoire.
« Qu'est-ce que Palmkrona a mangé mercredi ?»«
Des steaks hachés de veau avec une sauce à la crème fraîche. »«
Avec du riz ?»«
Pommes de terre, toujours des pommes de terre à l'eau. »«
À quelle heure êtes-vous arrivé à l'appartement de Palmkrona jeudi ?»«
À 6 heures. »
« Étiez-vous allé faire des courses lorsque vous avez quitté l'appartement de Palmkrona jeudi ?»«
Il m'a libéré. »
Yona la regarde dans les yeux, puis se dit qu'il doit en venir au fait.
« Est-ce que Palmkrona avait déjà accroché le nœud au plafond mercredi ?»«
Non. » »«
Pourtant, c'est ce que vous avez déclaré à notre collègue John Bengtson, »
dit Saga.
« Non. Nous avons l'enregistrement de l'interrogatoire. »
poursuit Saga en réprimant son irritation. Puis elle choisit de ne pas insister.
« Est-ce que vous avez parlé du nœud avec Palmkrona ?»
demande Yona.
« Nous ne parlions jamais de choses d'ordre privé. Mais vous ne trouvez pas étrange de laisser un homme seul avec un nœud coulant accroché au plafond ?»
demande Saga.
« Je n'allais pas rester à regarder !»
répond Edith avec un petit sourire.
« Non, »
dit calmement Saga. Pour la première fois, Edith semble vraiment regarder Saga. Sans gêne, elle laisse son regard parcourir ses cheveux ornés de rubans de couleur, son visage sans maquillage, son jean délavé et ses baskets. «
Seulement je n'arrive toujours pas à comprendre, » dit Saga d'une voix lasse. « Vous avez dit à notre collègue avoir vu le nœud mercredi, mais à l'instant, lorsque je vous ai reposé la question, vous avez répondu le contraire. »
Yona consulte ce qu'il a écrit il y a quelques minutes, lorsque Saga a demandé si Palmcrona avait déjà accroché le nœud mercredi.
« Edith, » dit-il, « je crois comprendre ce que vous voulez dire. »«
Bien, »
dit-elle à voix basse.
« Lorsqu'on vous a demandé si Palmcrona avait déjà accroché le nœud mercredi, vous avez répondu non car ce n'est pas lui qui a accroché le nœud. »
La vieille dame lève sur lui un regard dur et dit ensuite d'un ton maussade
« Il a essayé, mais il n'y arrivait pas. Il avait le dos bien trop engourdi depuis son opération cet hiver. Alors il m'a demandé de le faire. »
Le silence tombe à nouveau. Les arbres sont immobiles sous le soleil de plomb.
« C'est donc vous qui avez accroché le fil à linge pourvu d'un nœud coulant au crochet du plafond ?»
demande Yona.
« Il a fait le nœud et tenu l'escabeau pendant que je grimpais. »
« Ensuite, vous avez rangé l'escabeau, vous êtes retourné vaquer à vos occupations, puis vous êtes rentré chez vous le mercredi soir après avoir fait la vaisselle du dîner, »
dit Yona.
« Oui. »
« Vous êtes revenu le lendemain matin, » poursuit-il, « et comme d'habitude, vous avez préparé son petit déjeuner. »
« Saviez-vous alors qu'il n'était pas pendu au plafond ?»
demande Saga.
« J'ai vérifié dans le petit salon. »
L'espace d'une seconde, un sourire narquois semble traverser son visage figé.
« Vous avez déjà raconté que Palmcrona avait pris son petit déjeuner exactement comme d'habitude, mais ce matin-là, il ne s'est pas rendu à son travail.
Il est resté dans le salon au moins une heure. »
« En écoutant de la musique ?»«
Oui. »
« Juste avant le déjeuner, il a passé un coup de fil, »
dit Saga.
« Je ne sais pas, il était dans son bureau, la porte fermée. » Mais avant de se mettre à table pour manger le saumon mariné, il m'a demandé de commander un taxi pour 2 heures.
« Il allait à l'aéroport d'Arlanda, »
dit Yona.
« Oui. »
« Et à 13h50, il a reçu un appel. »
« Oui. Il avait déjà enfilé son manteau et a répondu dans l'entrée. »
« Vous avez entendu ce qu'il disait ?»
demande Saga. Edith gratte son pansement puis pose sa main sur la poignée de la porte.
« Mourir, ce n'est pas un cauchemar, »
dit-elle à voix basse.
« Je vous ai demandé si vous aviez entendu ce qu'il disait, »
répète Saga.
« Maintenant, veuillez m'excuser, » dit sèchement Edith en refermant la porte.
« Attendez, »
dit Yona. Elle interrompt son mouvement mais sans rouvrir davantage. Elle dévisage Yona dans l'entrebâillement de la porte.
« Vous avez eu le temps de trier le courrier de Palmcrona pour aujourd'hui ?»
demande Yona.
Évidemment.
Cherchez tout ce qui n'est pas de la publicité.
Elle hoche la tête, entre, referme derrière elle, et revient quelques secondes plus tard avec un bac en plastique bleu rempli de courriers.
Merci,
dit Yona en récupérant le bac. À peine Edith Schwartz a-t-elle verrouillé derrière elle que le cliquetis du chariot coulissant reprend. Il retourne à la voiture. Derrière eux, le chien aboie de plus belle. Saga démarre et fait demi-tour. Yona enfile des gants en latex, fouille dans le bac et saisit une enveloppe blanche dont l'adresse est manuscrite. Il l'ouvre et en sort délicatement la photo pour laquelle au moins 2 personnes sont mortes.